si j'obtiens de mon frère, que vous soyez exceptés de l'ordonnance. On vous laisse emporter toute votre fortune. On vous rachète vos biens immeubles. » Ptolémée réfléchit un instant. On lui donnait le moyen de se sauver seul. Tout homme sensé à qui l'on fait une proposition de cette sorte la considère et n'en a que plus de mérite lorsqu'il la repousse. « Non, monseigneur, répondit-il, je subirai le sort qui sera fait à tous. Je ne veux point recommencer ailleurs et n'ai point de raison de le faire. Je suis de France maintenant, autant que vous l'êtes. Je suis bourgeois du roi. Je veux rester dans cette maison que j'ai construite à Paris. J'y ai passé 32 ans de ma vie, monseigneur, et si Dieu veut, c'est ici que ma vie s'achèvera. Du reste, ajouta-t-il, eussé-je le désir de vous restituer la décharge ? Je ne pourrais pas, je ne l'ai plus en main. » « Vous mentez !» s'écria l'archevêque. « Non, monseigneur. » Jean de Marigny porta la main à sa croix pectorale et la serra comme s'il allait la briser. Il eut un regard vers la fenêtre, puis vers la porte. « Vous pouvez appeler votre escorte et faire fouiller ma demeure, » dit Ptolémée. « Vous pouvez même mettre les pieds à rôtir dans la cheminée ainsi que cela se pratique dans vos tribunaux d'inquisition. Vous causerez grand tapage et scandale, mais vous repartirez tel que vous êtes venu, que je sois mort ou vif. Mais si d'aventure j'étais mort, sachez que cela ne vous rapporterait guère, car mes parents de Sienne ont ordre, s'il m'arrivait de trépasser trop tôt, d'avoir à faire connaître cette décharge au roi et au grand baron. » Dans son corps gras, le cœur battait vite et la sueur lui coulait sur les reins. « À Sienne !» dit l'archevêque. « Mais vous m'aviez assuré que cette pièce ne sortirait pas de vos coffres. »«
Elle n'en est pas sortie, monseigneur, ma famille et moi, c'est tout un. »
L'archevêque fléchissait. Ptolémée sentit en ce moment précis qu'il avait gagné et que les choses allaient à présent s'enchaîner comme il le souhaitait. « Alors ?» demanda Marigny.
« Alors, monseigneur, » dit Ptolémée calmement, « je n'ai rien d'autre à vous dire que ce que je vous ai déclaré tout à l'heure. Parlez au coadjuteur et pressez-le d'accepter l'offre que je lui ai faite pendant qu'il en est temps. » Sinon, le banquier, sans achever sa phrase, alla vers la porte et l'ouvrit.
La scène qui, le même jour, opposa l'archevêque à son frère fut terrible. Mis brusquement face à face dans la nudité de leur nature, les deux Marigny, qui jusqu'alors avaient marché d'un même pas, se déchiraient. Le coadjuteur accabla son cadet de reproches et de mépris, et le cadet se défendit comme il put, avec lâcheté.
« Vous avez bonne mine de m'écraser, s'écria-t-il. D'où vous est venue votre richesse? De quel juif écorché? De quel templier grillé? Je n'ai fait que vous imiter. Je vous ai assez servi dans vos manœuvres, servez-moi à votre tour. Si j'avais su qui vous étiez, je ne vous aurais point fait archevêque, dit Enguerrand. Vous ne trouviez personne qui accepta de condamner le grand maître. »
Oui, le coadjuteur savait que l'exercice du pouvoir oblige à des collusions indignes. Mais il était écrasé soudain d'en voir l'effet dans sa propre famille. Un homme qui acceptait de vendre sa conscience contre une mitre pouvait aussi bien voler, aussi bien trahir. Cet homme était son frère. Voilà tout. Enguerrand de Marigny prit son projet d'ordonnance contre les Lombards et, de rage, le jeta dans le feu.
« Tant de travail pour rien, dit-il. Tant de travail. »